France Culture.
Les nuits de France Culture.
Art dramatique, art lyrique, entre les deux, puisque son cœur balançait, Jean-Marie Villégier n'aura pas choisi, en conduisant une histoire de metteur en scène qui, régulièrement, passa de l'un à l'autre dès lors qu'elle fut lancée. La mise en scène, le théâtre pour métier, il en aura pourtant accepté l'évidence tardivement, en dépit de la passion dévorante pour ce qui se passait sur les planches, qui submergeait depuis son plus jeune âge cet enfant du TNP et de Jean Villard, comme il le rappelait dans l'archive que nous allons entendre. C'était en 2006, dans un numéro de « Affinité élective » de Francesca Isidori, alors qu'il mettait en scène, avec Jonathan Duverger, la révolte de Villiers de l'Isle-Adam, qui, après Bourges, arrivait à Paris, à l'Athénée Louis Jouvet. Jouvet, Dulin, Gérard Philippe, Roger Blin, c'étaient les voix que Jean-Marie Villégier avait choisi de faire entendre dans cette émission, au cours de laquelle il évoquait son parcours atypique, les raisons qui l'avaient conduite à exhumer les dramaturges et les pièces oubliées du théâtre classique, son passage à la direction du TNS et au début de ses affinités électives, en se souvenant de l'immense succès qu'avait été son Attis de Lully, sa collaboration avec William Christie. Affinité élective avec Jean-Marie Villégier, une émission diffusée le 26 janvier 2006 sur France Culture.
Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Il s'est défini un jour le fouilleur des poubelles de la littérature et du théâtre, chiffonnier de l'histoire ou encore visiteur des zones obscures. Au lieu de suivre la voie royale et toute tracée du répertoire classique, il a souvent travaillé sur les à-côté des chefs-d'œuvre établis. Il a exploité les zones d'ombre, les pièces oubliées, les trésors enfouis. Le 16 janvier 1987 est une date que tout amateur de théâtre et d'opéra ne peut oublier. Ce soir-là, à l'Opéra Comique, dans sa mise en scène, les splendeurs et les féeries baroques d'Attis de Lully étaient une révélation. Mais ses passions ne sont pas une curiosité d'antiquaire. Qu'il monte Rotrou ou Scarron, le Corneille, le moins joué ou tout récemment Villiers de l'Île d'Adam, son credo reste le même. Le théâtre, ne pas fait pour assurer, mais pour inquiéter, dit-il. Et les pièces du patrimoine, connues ou inconnues, ne sont pas plus rassurantes que ne l'est le théâtre contemporain. Les affinités électives de Jean-Marie Villégier. Bonjour Jean-Marie Villégier.
Bonjour.
Lully, Attis, William Christie, Les Arts Florissants. C'était à l'Opéra Comique, je viens de le rappeler, en 1987. Et c'était votre mise en scène. Les décors étaient de Carlo Tommasi, les costumes de Patrice Cochetier, les éclairages de Philippe Arlot, la chorégraphie de Francine Lancelot. Et tous ceux qui ont vu ce spectacle ne l'ont pas oublié. Mais vous avez dit que souvent, votre travail a donné lieu à une espèce de malentendu. Que lorsque vous avez, avec William Christie, monté Attis, qui était le plus grand succès que vous ayez eu ensemble en matière de tragédie lyrique française, tout le monde a crié à la reconstitution sur le mode « Oh, on s'y croirait ». Alors, vous dites que c'était un contresens complet.
Oui, c'est un contresens qui, d'ailleurs, peu à peu s'est corrigé au fil des ans et des reprises d'Attis, puisque nous avons eu deux belles reprises d'Attis ensuite, et que le spectacle a eu une longue vie. Mais au tout départ, cette illusion a joué à plein. Or, la mise en scène que j'avais conçue se situait tout à fait à l'opposé de la reconstitution, quand ce ne serait que par le fait que nous jouions la pièce entière dans un décor unique, alors que la tragédie lyrique prévoit un changement de décor par acte, prévoit un grand effet de machinerie par acte. Or, il n'y avait pas la moindre machinerie. Bref, il s'agissait pour moi de voir à travers le faste et les grands moyens de la tragédie lyrique le schéma de la tragédie classique s'imposer. Il s'agissait aussi de faire que le spectacle ne prime pas sur les personnages, ne prime pas sur l'action. Car il faut bien le dire, parmi les livrets que Kino a écrit pour Lully, le livret d'Attis est très certainement l'un des plus forts. C'est une vraie tragédie, très belle, une tragédie d'ailleurs à fin sanglante.
Jean-Marie Villégier, quand Attis a été représenté à la Brooklyn Academy aux États-Unis, d'abord il y a eu, si je ne me trompe pas, près d'une heure de standing ovation.
Et je n'avais pas ma montre en main.
Et la presse américaine a parlé de ce spectacle comme de l'expression la plus raffinée, la plus pure de la culture française.
C'était très gentil de leur part, mais en effet, il y a eu un effet Attis aux États-Unis. Mais moi, je n'entrerai pas dans ce qu'a été la réaction de la presse. Je me contenterai d'un petit souvenir personnel qui est une émotion, l'une des grandes émotions de ma vie, qui a été d'être présenté à Jérôme Robbins à la fin de ce spectacle auquel il avait assisté. Donc vraiment, c'est une toute petite chose, mais c'est une petite chose qui reste chère à mon cœur.
Jean-Marie Villégier, vous avez exploré et défendu des auteurs oubliés du théâtre classique ou pré-classique, Méret, Larivet, je pense que ces noms ne disent pas grand-chose à la plupart d'entre nous.
Rotrou,
vous avez mis en scène Scarron, Dancourt, et quand vous choisissez Corneille, c'est Sophonisme ou Héraclius, c'était ces pièces les moins connues, ou encore en 97, L'illusion comique, qui a été écrite quelque temps avant le CID, et qui a été reniée par son auteur, qui disait « elle ne vaut pas la peine d'être considérée ». Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, comme ça, presque instinctivement, à vous intéresser à défricher, à redécouvrir tout ce répertoire oublié, ces à côté des chefs-d'œuvre connus? Pourquoi ces à côté ont attiré votre intérêt?
J'ai eu, en tant que petit spectateur de la comédie française quand j'étais gamin, et à mesure que le temps passait, le sentiment que notre répertoire théâtral, c'était la peau de chagrin. Et que plus le temps passait, plus il se réduisait à quelques grands chefs-d'œuvre, repris, relus, revisités, bien sûr, mais au détriment de l'extrême richesse de ce patrimoine. Donc, il m'a semblé qu'il était intéressant de se dégager de ces célébrations obligées et de passer de la célébration à l'exploration, à la découverte, au voyage, à la surprise. Car les canons du théâtre classique français sont une bien belle chose qui a produit de bien grands chefs-d'œuvre, mais on oublie tout autour de Phèdre, du Misanthrope et du Cid, qu'il y a une extraordinaire floraison de formes et de pensées de toutes sortes, et ça vaut la peine d'aller se surprendre soi-même. je m'amusais à dire à ce moment-là, se regarder dans le miroir, puisque le théâtre, le répertoire théâtral est bien peu le miroir de l'identité française, et ne pas se reconnaître. S'apercevoir entre autres que beaucoup des œuvres de cette époque reflètent des influences étrangères, des influences italiennes, des influences espagnoles.
Qui a une très grande circulation.
Qui a une énorme circulation des œuvres. N'oublions pas, dans l'autre sens, que Corneille, de son vivant, a été joué en Angleterre. Chose tout à fait extraordinaire. Donc, l'Europe du théâtre existe déjà. Elle a probablement débuté en Italie, mais elle a circulé très vite. L'influence espagnole est énorme en France. Bref, il y a là de quoi se réjouir beaucoup, et surtout, j'allais dire, de quoi s'inquiéter, d'avoir une idée aujourd'hui si étroite de ce qu'est le XVIIe siècle français.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi chez vous une position polémique, presque un défi, par rapport au portrait robot qu'on peut avoir du répertoire classique, et ce désir au fond de montrer un autre visage du théâtre de cette époque-là, mais presque sur un ton de bataille et pas...
Oui, absolument, sur un ton de bataille et dans l'idée que ce répertoire pouvait être offert à un vaste public, qu'il n'était pas hermétique, difficile, mais qu'il pouvait être l'objet d'une vraie jubilation aujourd'hui.
Jean-Marie Villégié, je vais citer un critique de théâtre, Michel Cournot, que vous connaissez sans doute, qui parle de certains metteurs en scène portés de nos jours, dit-il, au sécourisme. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette catégorie, au moment où vous montiez justement toutes ces pièces d'auteurs oubliés?
Je ne me sens pas visé. Je ne me sens pas visé lorsqu'il s'agit, par exemple, des galanteries du Luc d'Ossonne, lorsqu'il s'agit du Fidèle de Larivet, lorsqu'il s'agit de la Sophonisbe de Corneille, pour cette bonne raison que je trouve que ces morts-là sont extraordinairement vivants, parlent un langage qui nous est très accessible aujourd'hui, traitent de problèmes qui aujourd'hui nous sont sensibles, qui peut-être n'ont pas été saisis par les contemporains. Il y a des œuvres qui peuvent attendre, comme ça au Frigidaire, de trouver leur public. Et il serait, je crois, très très mauvais et très dangereux de laisser se perpétuer des jugements prononcés il y a deux siècles au nom de valeurs qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Donc une relecture s'impose avec notre regard d'aujourd'hui, et ceci dans une optique, je dirais, de création. Je dis création puisque, par exemple, Sophonisbe, que j'ai monté plusieurs fois, est une pièce qui est entrée au répertoire de la Comédie française aux alentours de 1690, qui a été jouée deux fois, deux soirs, et qui, après ces deux soirs, a disparu pour jamais de la première scène française. Or, je continue à penser qu'il s'agit d'une pièce prodigieuse, dont les problèmes, qui traite de problèmes politiques qui nous sont aujourd'hui très très présents, qui sont très actuels, ceux de l'impérialisme, ceux du rapport entre les grandes puissances et les petits États, ceux des rois fantoches mis en place par les grandes puissances dans les petits États, ceux de la colonisation, par exemple. Enfin, bref, c'est une pièce qui, aujourd'hui, nous parle peut-être mieux et plus qu'elle ne pouvait parler aux contemporains.
Jean-Marie Villégié, vous nous avez apporté aujourd'hui des objets très rares. Vous nous avez apporté quelques 33 tours, très précieux, j'imagine, pour vous et pour nous. Et on va écouter une première voix.
Qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Ah, mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis. Et ce que je fais? Hélas! Mon argent, mon pauvre argent, mon cher ami! On m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Sans toi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Ah, je n'en peux plus, je me meurs. Je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui me l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Ah, il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pielleur et l'on a choisi juste le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils et à filles, et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? Oh, de grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Oh, ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Au voleur ! Au voleur ! Au voleur !
Charles Dullin, l'avare, Jean-Marie Villégier.
Je n'ai jamais vu Charles Dullin dans l'avare. Mais j'ai quand même cette chance extraordinaire d'avoir vu un spectacle de Dullin alors que j'avais 6 ans. C'était « La vie est un songe ». Si j'ai choisi l'avare, c'est parce qu'on a peu de témoignages de Dullin en scène, mais aussi parce qu'on entend avec quelle extraordinaire énergie ce qu'au XVIIIe siècle on appelait avec quel foyer la lumière concentrée qui brûle, c'est comme c'est comme un fer rouge la voix de Dullin. Donc probablement c'est de ce côté-là, alors que nous étions encore sous l'occupation et que mes parents n'allaient pas au théâtre, mais faisaient cette exception parce que mon père était hispaniste. Et que la vie est un songe, ça ne se rate pas, même dans cette période sombre. C'est probablement là que la toute première
étincelle,
la toute première injection m'a été faite dans le théâtre qui est aujourd'hui Théâtre de la Ville et qui à l'époque était le Théâtre Sarah Bernhardt, Théâtre de la Cité, rebaptisé parce que Sarah Bernhardt, n'est-ce pas? Et j'ai gardé de ce spectacle, qui d'ailleurs était un spectacle pauvre, je m'en souviens très bien, je me souviens bien du dispositif scénique, c'était vraiment peu de choses, un gros, impraticable, des escaliers, peu de choses. Mais ce feu extraordinaire de Dullin. Voilà, c'est tout premier contact avec le théâtre, mais comme vous voyez, très précoce, mes parents étaient très imprudents de m'emmener au théâtre à cet âge.
Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils s'en sont repentis un petit peu ensuite.
Jean-Marie Villégier, une autre voix qui a sans doute allumé une autre étincelle chez vous.
Que le ciel à jamais, par cette toute bonté et de l'âme et du corps, vous donne la santé et bénisse vos jours, autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire.
Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise, afin d'être un peu mieux.
Comment de votre mal vous sentez-vous remise?
Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise.
Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence.
Votre zèle pour moi s'est trop inquiété.
On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne.
C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés.
Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez.
Je voulus parler en secret d'une affaire. Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire.
J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée.
Pour moi, ce que je veux, C'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien.
Je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme, tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne, d'un pur mouvement.
Je le prends bien ainsi, et crois que mon salut vous donne ce souci.
Oui, madame, sans douter, ma ferveur est telle.
Vous me serrez trop.
C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'ai jamais...
Louis Jouvet, Tartuffe, Jean-Marie Millégier, c'est un autre souvenir, mais je crois que c'est dans Don Juan que vous avez vu Louis Jouvet.
Absolument.
Vous aviez 10 ans.
De 1947 à 1951, j'avais 10 ans en 47, mes parents m'ont conduit pratiquement à tous les spectacles que Jouvet présentait à l'Athénée dans ces quelques années, 1951 étant l'année de sa mort. Donc ça, le premier était Don Juan, dans ce théâtre de l'Athénée où nous avons l'honneur de jouer aujourd'hui.
Et où vous avez monté Tartuffe vous-même en 99.
Absolument, où j'ai monté
Tartuffe. Et vous Tartuffe, avez joué Orgon.
Et joué Orgon. Ce théâtre qui est hanté par le grand fantôme du patron, comme on disait à l'époque, et qui était chez Jouvet. Arrivant à l'Athénée, au-dessus de la boîte à sel, il y avait le portrait de Jouvet. C'est une époque aussi qui m'avait beaucoup frappé par le fait que aller au théâtre, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, c'était aller chez quelqu'un. Aller à Marigny, c'était aller chez Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud. Aller à l'atelier, c'était aller chez Dulin. Aller au Mathurin, c'était aller chez Marcel Herrand. Aller à l'œuvre, c'était aller chez Pitoyev. Et bien sûr, chez Jouvet, c'était pas mal. La qualité des spectacles, évidemment, était exceptionnelle. Et je me souviens tout particulièrement du Tartuffe, qui fut le dernier. Et aussi de l'École des femmes, puisqu'il l'a repris. Alors, il a repris ce spectacle très peu de temps avant de mourir. C'est le dernier que j'ai vu. Un spectacle dont je me souviens aujourd'hui, c'est très rare. Il en est très peu dont je puisse dire cela. Comme d'une chose qui pourrait être... reprise telle qu'elle, un spectacle, une mise en scène qui n'aurait aujourd'hui, j'en suis certain, pas une ride. Ça se ride très vite, le théâtre. Mais ce spectacle-là, immarcessible.
Jean-Marie Villégier, peut-être le moment est venu de sortir les deux photos que vous avez apportées. Photos de Jean-Marie Villégier à l'époque où il allait voir Dulin et Jouvet.
À peu de choses près. Ce sont des photos du lycée Buffon, où j'étais élève, où j'ai fait toute ma scolarité.
Vous êtes né à Paris ?
Non, je suis né à Orléans, mais arrivé à Paris, juste pour entrer en 12e, puisqu'il n'y avait pas de maternelle à l'époque. Et donc, de la 12e à la philo, lycée Buffon. Et j'étais en 4e, avec un magnifique professeur de français, qui s'appelait Monsieur Rochas, et qui dirigeait un petit groupe théâtral, louant à je ne sais quel fripier... des costumes improbables et crasseux que ma mère essayait tant bien que mal de mettre à mes mesures. Et la photo que j'ai sous les yeux est une photo hors scène d'ailleurs, où je suis en compagnie de Laurent Terzieff. Laurent Terzieff est dans le rôle de Sbrigani, et moi dans celui d'Alceste. Nous jouions séparément ces deux choses, mais nous avons joué ensemble la première scène du Misanthrope. Je faisais Alceste, il faisait Philinte. Et je dois dire que j'étais ébloui, déjà, j'avais 49, 50, oui, j'étais ébloui par l'invention scénique, le charme scénique de ce que faisait Laurent Terzieff. Cette rencontre a probablement été aussi assez déterminante. Nous avons été très proches pendant 1 ou 2 ans, je ne l'ai plus revu depuis. Je pense que le revoir, ce serait réchauffer des choses qui n'ont pas besoin d'être réchauffées pour être toujours présentes dans mon sentiment et dans mon cœur. Mais je profite de l'occasion pour dire quelle admiration j'ai pour le parcours qu'il a fait, la rigueur de son parcours.
Très solitaire.
Très exigeant, la pureté de ses choix... Bon, et le grand homme de théâtre qu'il est.
Jean-Marie Villégier, on va continuer cette exploration, cette évocation plutôt des voix que vous nous avez apportées aujourd'hui.
Au jour de sang, jour de mes noces, au soleil, il y a assez longtemps que tu es sec comme le plomb. Tu te meurs de soif, soleil, son sang t'enivrera. Oh, ma vengeance, qu'il y a longtemps que tes ongles poussent. Oh, dents du golin, il vous faut le crâne. Le crâne.
Es-tu en délire ? As-tu la fièvre ?
Lâche ! Lâche ! Rufien ! Le petit maigre, les pères, les filles. Des adieux sans fin. Les rives de l'Arnon pleines d'adieux. Les gamins l'écrivent sur les murs. Ris, vieillard, ris dans ton bonnet blanc. Tu ne vois pas que mes ongles poussent.
Gérard Philippe, Lorenzaccio, Jean-Marie Villégier.
Alors les dernières années, mes dernières années de lycée et mes premières années de Cagnes, au lycée Louis-le-Grand, ont été scandées par les spectacles de Villard au Théâtre National Populaire. Là, vraiment, alors je crois que je devenais vraiment malade, quoi. Malade de théâtre, j'entends.
Malade imaginaire.
Pas d'imaginaire du tout. À voir et à revoir Lorenzaccio, à voir et à revoir le Cid, à voir et à revoir le Prince de Hambourg, et tant d'autres pièces. J'irais de cette voix de Gérard Philippe qu'on vient d'entendre et qu'on connaît bien, une chose très étonnante, c'est que Gérard Philippe avait beau être une très grande star, aller voir Gérard Philippe au TNP à Chaillot, parce que je ne l'ai vu qu'à Chaillot, je n'avais pas à Avignon, ça n'avait rien à voir avec ce que serait aujourd'hui la démarche d'aller voir, je sais pas, Alain Delon à Marigny,
ou Belmondo,
aux variétés. On n'allait pas voir une star. D'abord, on allait voir le TNP. Et on allait voir un acteur célèbre engagé dans cette entreprise collective, dans une troupe. Et on allait voir aussi Villard, qui est, j'allais dire, du jour au lendemain, d'acteur et metteur en scène, je n'irai pas confidentiel, mais de petit théâtre qu'il était, devenu vraiment, lui aussi, mais je ne dirais pas une star, je dirais l'inventeur et l'animateur d'un théâtre, oui, il faut le dire, populaire. Même si, bien sûr, ça n'était peut-être pas... c'était peut-être plus classe moyenne que vraiment prolétariat, ouvrier. Et encore, l'une des choses les plus frappantes du TNP, ça aura été malgré tout de jouer Cinna, qu'aujourd'hui les directeurs de théâtre redoutent comme un texte qui risque de vider leur salle, qu'aujourd'hui on me refuse lorsque je le propose à des coproducteurs, devant des 2200 personnes. J'ajouterai une chose très importante pour mon expérience du TNP. On mesure mal aujourd'hui que Jean Villard, dans son théâtre national populaire et dans cette immense salle de Chaillot, présentait des œuvres oubliées. L'heureux stratagème de Marivaux, oublié depuis Belle Lurette. Le triomphe de l'amour de Marivaux, même chose. Lorenzaccio, fort peu joué, avant d'être créé dans repris dans la mise en scène de Gérard Philippe, fort peu joué chez Batty, joué autrefois par Sarah Bernard, mais jamais dans cette dimension épique que lui donnait la mise en scène de Philippe, puisque c'était Gérard Philippe qui était son propre metteur en scène dans ce spectacle. Je pourrais aussi continuer avec des classiques étrangers, d'ailleurs. Richard II, jamais joué en France. Platonov, quoi encore, bien d'autres. Le prince de Hambourg, pour commencer. Et la mort de Danton. Tout ça, ça n'était pas comme c'est aujourd'hui les classiques de notre temps. C'était des chefs-d'œuvre, vraiment de très grands chefs-d'œuvre.
Qui étaient presque inconnus.
Qui restaient dans les poubelles. Mmh. Aussi bien, ou qui n'avait pas encore traversé nos frontières. Donc Villard a été un grand découvreur de répertoire. Et je crois avoir été énormément influencé par ce comportement qu'il avait à l'égard du répertoire, proposé au plus vaste public.
Jean-Marie Villégier, quand vous alliez au TNP, quand vous alliez écouter, voir Gérard Philippe, vous vous projetiez sur cette scène en tant que comédien, ou vous vous imaginiez metteur en scène, ou peu importe, vous vous imaginiez en tout cas dans la famille du théâtre.
Je crois qu'il y a les vocations de metteur en scène, je crois que ça n'existe pas. Oui, j'avais envie de jouer la comédie, tout bêtement. Quand on a envie de faire du théâtre, je crois que c'est Diderot qui dit ça, dans les entretiens sur les fils naturels. On commence toujours par de mauvaises raisons. Le narcissisme, la gloire, enfin, la gloire, la notoriété, le public, les applaudissements, les projecteurs, enfin, tout ça, oui, voilà. Et c'est le travail, j'allais dire presque de toute une vie, que de transformer ces mauvaises raisons en bonnes raisons. Et parmi, dans ce travail-là, il y a le passage du désir d'être acteur au choix d'être metteur en scène. Bon, et puis, comme vous savez, un peu tardivement, je me suis quand même, grâce à Jonathan Duverger, avec qui je collabore depuis des années, je suis une ou deux fois passé de l'autre côté, et j'ai retrouvé mes mauvaises raisons, celles, enfant, qui me conduisaient à désirer être sur scène.
Jean-Marie Villégier, on va écouter un autre homme de théâtre qui a été très important pour vous.
Les uns disent que le mot Odradek a des origines slaves et cherche à expliquer sa formation à l'aide de cette hypothèse. D'autres prétendent qu'il provient de l'allemand et n'a été qu'influencé par un dialecte slave. Mais l'incertitude de ces interprétations autorise à conclure à bon droit qu'elles se trompent toutes deux, d'autant plus que nul ne permet de trouver un sens au mot. Naturellement, personne ne s'occuperait de telles recherches s'il n'y avait pas réellement un être qui s'appelât Odradek. Au premier abord, on dirait une bobine de fil plate et en forme d'étoile. Il semble bien en effet qu'il soit entouré de fils. Ce ne pourrait être, il est vrai, que de vieux bouts de fil cassés, de toute qualité, de toute couleur, noués bout à bout et embrouillés. Mais ce n'est pas seulement une bobine. Il sort du centre de l'étoile un petit pivot transversal auquel un autre bout de bois s'ajoute encore à angle droit. C'est à l'aide d'un côté de ce petit bout de bois et de l'autre des rayons de l'étoile que le tout se tient comme sur des jambes. On serait tenté de croire que ce système a eu autrefois une forme utile et que c'est maintenant une chose cassée. Mais ce serait sans doute une erreur. Rien ne révèle du moins qu'il doive en être ainsi. On n'aperçoit ni ajouture ni fêlure qui autorise à le penser. L'ensemble paraît vide de sens, mais complet dans son genre. On ne saurait d'ailleurs en dire plus long à ce sujet, car Odradek est extraordinairement mobile. On ne peut pas l'attraper. Il se tient tantôt au grenier, tantôt dans l'escalier, tantôt dans les couloirs et tantôt dans le vestibule. Il disparaît parfois pendant des mois. C'est sans doute qu'il est allé dans d'autres maisons, mais il revient toujours dans la nôtre. Souvent, quand on sort et qu'on le voit en bas appuyé sur la rampe de l'escalier, on a envie de lui parler. Naturellement, on ne lui pose pas de questions difficiles. On le traite comme un enfant. Sa petitesse à elle seule vous y pousserait. « Comment t'appelles-tu ? » lui demande-t-on. « Odradek ! » dit-il. Et où habites-tu ? Pas de domicile fixe, dit-il en riant. Mais ce n'est que le rire qu'on peut produire sans poumon, un rire qui ressemble à peu près au crissement des feuilles mortes. Il marque en général la fin de la conversation. D'ailleurs, ce n'est même pas toujours qu'on obtient ces réponses-là. Odradek reste souvent muet comme le bois dont il semble fait. C'est en vain que je me demande ce qu'il deviendra. Peut-il donc mourir ? Il n'est rien qui ne meure sans avoir eu une sorte de but. Une sorte d'activité qui l'ont usé. Ce n'est pas le cas d'Odradek. Déballera-t-il encore un jour l'escalier, traînant ses bouts de fil après soi, devant les pieds de mes enfants et les enfants de mes enfants ? Il ne nuit bien sûr à personne. Mais l'idée qu'ils doivent me survivre m'est presque douloureuse.
C'était la voix de Roger Blin, Jean-Marie Villégier, dans Odradek de Kafka.
Oui, il faut que je fasse un grand détour pour en venir jusqu'à lui. C'est-à-dire que j'avoue avoir, pendant des années, oublié mon désir de théâtre, refoulé mon désir de théâtre. J'ai préparé l'agrégation de philosophie, j'ai d'ailleurs traîné à la passée, mais enfin, j'y suis parvenu. Sortant de l'école normale, j'ai été nommé professeur au lycée de Dijon, j'ai enseigné, et au bout de 2 ans d'enseignement, j'ai compris que je m'étais trompé. Donc j'ai cherché, par bien des moyens, à revenir au théâtre, et je ne savais trop comment. J'avais, à l'école normale, rencontré, grâce à Louis Althusser, Bernard Dort, qui connaissait mon désir secret. Et c'est lui qui m'a permis d'obliquer en me faisant nommer à l'université de Nancy, où j'ai inauguré un poste d'enseignement d'histoire du théâtre et du cinéma. À partir de là, j'ai commencé à travailler avec des amis, et en particulier avec une amie de toujours, Evelyne Chevalier, qui m'a aidé à monter mes premiers spectacles. Bout de ficelle, nous traînions ensemble dans les rues de Nancy à la recherche de caisses de contre-exéville pour fabriquer un mur. Vraiment les moyens du bord, enfin.
Et quelles étaient ces pièces?
C'était La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Sur laquelle d'ailleurs j'ai planché pendant plusieurs années, tirant de cet immense texte la matière de 3 ou 4 spectacles. Et à partir de ce moment, j'ai eu l'occasion de participer à des stages de formation, d'art dramatique, de rencontres, en particulier franco-italiennes. Nous étions tous des admirateurs éperdus, et à juste titre, de Giorgio Strehler. Et c'est au cours de l'un de ces stages que j'ai fait la rencontre de Marcel Bozonnet, aujourd'hui administrateur de la Comédie Française, alors jeune comédien, qui m'a pris par la main, je dirais, et me signalant qu'il avait avec Hermine Caragueuse le projet de monter Léon Sénéna, m'a demandé si j'étais désireux de m'associer à eux pour ce travail. Ce sont mes tout premiers pas de metteur en scène, et comme vous voyez, c'était un tout petit pas, puisque il s'agissait d'un tiers de mise en scène. Nous étions à 3 pour faire la mise en scène de Léon Sénéna, et nous jouions aussi. Marcel Bozonnet jouait Léon. Or, ensuite, nous avons décidé de continuer à travailler ensemble. Et je dirais presque de faire de l'auto-formation, un petit groupe où figuraient aussi Christian Rist, Valère Novarina, Olivier Perrier, que nous avons consacré près de 2 ans à travailler sur Corneille, autour de Corneille, sur l'Alexandrin, et en particulier sur Héraclius. Nous étions à la recherche d'un lieu de travail, et Marcel, aussi bien que Christian, connaissait Roger Blin, aussi bien qu'Hermine Caragueuse d'ailleurs, et c'est lui qui nous a offert un asile dans une petite salle de répétition du Théâtre 347 où il jouait tous les soirs fin de partie. Donc pendant la représentation, nous étions là-haut et nous entendions le cri final de Blin, comme presque signal, répétition terminée, fermeture des portes. Bon, tout ça est bien anecdotique, mais c'est pour dire que aussi que Blin était un immense interprète, pas seulement le metteur en scène que l'on sait, créateur des Nègres, spectacle mémorable, des Paravents, ami de Beckett et de Genet, mais un acteur étonnant, comme on l'entend un peu dans
la lecture de ce texte,
cette voix tout à fait extraordinaire qu'il avait. Cette voix de, je veux dire, avec cette extraordinaire réserve et en même temps cette densité, ce grain de voix magnifique. Il faut dire d'ailleurs que Blin était comme dédoublé par la scène, puisque à la ville, on le sait, il était bègue. Et en scène, il avait cette diction absolument admirable, cette clarté d'énonciation. Un petit souvenir. Après que nous ayons monté donc Léon Sénéna et présenté Léon Sénéna, grâce à lui, puisqu'il nous avait offert ce lieu de répétition, il était venu nous voir comme ça en répétition de temps à autre, avec ce masque mystérieux qui était le sien. Sans trop rien dire, on avait peur, on avait une peur horrible. Et je me souviens encore de lui, à la fin de la première de Léon Sénéna, venant nous dire c'était moins catastrophique que je n'aurais pensé.
Jean-Marie Millégier, est-ce que les débats étaient très vifs au sein de ce cénacle que vous formiez avec Novarina, avec Bozonnet, quand vous étiez 3 pour faire une mise en scène? Comment ça se passait?
Ensuite, quand nous avons travaillé sur Héraclius, nous n'étions plus que 2, c'était Marcel Bozonnet et moi, mais nous n'avions qu'à peine l'idée, nous avons fini par représenter ce spectacle, dans des conditions d'ailleurs acrobatiques, en tournée en Algérie, au théâtre antique de Timgad, puis sur la salle du centre culturel de Chelles. Mais en fait, notre but n'était pas de jouer. Notre but était de choisir Corneille comme comme terrain de manœuvre, d'exercice. Et oui, il y avait des débats, mais qui n'étaient pas des querelles. Oh oui, on s'est bien disputé un peu, on peut pas rester ensemble pendant 2 ans sans de temps en temps, sans de temps en temps quelques coups de gueule. Mais non, dans l'ensemble, je crois que ça a été un bonheur collectif. Tout ça, je dirais, une fois de plus, avec Merguez et Bout de Ficelle, mais beaucoup, beaucoup, je crois, de choses apprises, expérimentées, tâtées ensemble.
J'aimerais privilégier en 85, vous fondez votre compagnie, je crois que c'est en 85.
Absolument.
L'illustre théâtre, empruntant le nom à Molière.
Oui, enfin, là aussi, ça paraît, je tiens toujours à dire que ça paraît très, très, très prétentieux. On se dit, l'illustre théâtre, qu'est-ce qu'il prend? Mais on oublie une chose. C'est que l'illustre théâtre est l'entreprise la plus éphémère de Molière. Dès le moment où il part en province, et on sait que ça dure plus de 10 ans, dès le moment où il part en province, Molière n'est plus le maître de l'illustre théâtre. L'illustre théâtre, c'est Molière à Paris. Il est tout jeune homme. Et l'illustre théâtre est une entreprise qui s'écroulera, ou plus exactement, s'abolira pour dette. Ces dettes qui ont mené Molière en prison.
Ce n'est pas donc, votre cas, pour c'est l'instant. Moment,
non, Dieu merci. Dieu merci, et puis je dirais aussi grâce à Mireille Vigneault, qui est l'administratrice de ma compagnie et qui veille sans doute mieux que ne veillaient les proches de Molière à ce que les choses restent vivables et correctes. Et puis Molière n'était pas subventionné, ce que je suis malgré tout. Cette compagnie a été créée au moment où j'avais été invité au Portugal grâce à Robert Aviraced à monter le donjon de Molière, ce qui a été une expérience magnifique. Et l'inauguration de, enfin la création de cette compagnie coïncide avec une époque à la fois très passionnante et très rude. Puisque Jean-Pierre Vincent a eu l'imprudence et la générosité de m'inviter à monter à la Comédie Française La mort de Sénèque et Cinna, que simultanément j'ai été invité par Gérard Mortier à La Monnaie à monter mon premier opéra, j'avais le sentiment, n'ayant jusque-là travaillé que dans des conditions très précaires et avec de jeunes professionnels et souvent aussi avec des amateurs, j'avais le sentiment d'être jeté tout nu dans l'eau bouillante. J'ai eu droit, en chacune de ces circonstances, au bizutage qui s'imposait peut-être. Je suis jamais sûr que les bizutages s'imposent. Mais enfin, on peut dire que les comédiens français de leur côté, et Sylvain Cambrelin, chef d'orchestre à la Monnaie de Bruxelles, de l'autre, m'ont bizuté proprement. Après quoi, j'ai monté le couronnement de Poppée, j'ai eu cet honneur de monter le couronnement de Poppée avec Gustave Leonhardt. J'ai commencé à croire que peut-être, et c'est beaucoup grâce au regard de Gustave Leonhardt, que j'ai commencé à croire que peut-être je pouvais faire quand même quelque chose à l'opéra. Et Attis est venu très, très vite après.
J'aimerais privilégier, entre 91 et 94, vous avez dirigé le Théâtre National de Strasbourg. En quelques mots, quel est aujourd'hui votre regard sur cette expérience, sur cette période de votre vie?
Mon regard sur cette période est que ça a été probablement une erreur de me nommer d'emblée, alors que je n'avais aucune expérience de direction, dans une institution, dans un établissement aussi lourd. Je n'avais pas dirigé de centre dramatique, je n'avais pas dit... Bon, et tout d'un coup, je me trouvais à la tête d'un théâtre national, tout de même, avec 80 permanents. La charge était lourde, j'ai été bien aidé par Mireille Vigneault une fois de plus, mais je ne mesurais peut-être pas la quantité d'énergie que le simple travail de direction allait prendre, allait dévorer. Malgré tout, je conserve et des amitiés à Strasbourg et le souvenir d'avoir pu faire ce que depuis j'ai tant de peine à faire. Car enfin, c'est au Théâtre National de Strasbourg que j'ai pu monter Le Fantôme amoureux de Quinault, La magie sans magie de Lambert, Les innocents coupables de Brosse, que j'ai pu commander la mise en scène à Philippe Berling de d'Agisiland Kolkhoz de Rotrou, à Antoine Girard du Pyramétis B de Théophile Leviot, que j'ai pu monter La colonie et l'île des esclaves, travailler sur Garnier, monter La Troade, Des choses qu'aujourd'hui, me retrouvant à la tête d'une compagnie qui a absolument besoin de trouver des partenaires, je ne pourrais plus faire. Aujourd'hui, j'ai de la peine à faire admettre que Corneille est un auteur fréquentable.
Jean-Marc Villégier, dans ce même lieu, le Théâtre de l'Athénée, où votre vocation s'est déclarée grâce à Louis Jouvet, il y a bien longtemps, vous montez aujourd'hui avec Jonathan Duverger une pièce de Villiers de l'Île d'Adam, l'auteur des Contes cruels et de l'Ève future. Et quand je vous ai demandé de nous lire un texte, de choisir un texte, vous avez choisi un passage de la préface de
Absolument.
Cette pièce que vous montez en ce moment, qui s'intitule « La révolte ».
Il faut préciser que, créée en 1870, sa pièce « Villiers de l'Île d'Adam » a été un échec sanglant, qu'elle a été retirée de l'affiche au bout de 5 représentations.
Et malgré tout, vous avez eu envie de reprendre cette pièce.
Je ne suis pas le premier, elle a été montée depuis lors par plusieurs metteurs en scène. Je signalerai que d'ailleurs, ce pauvre Villiers est mort avant de voir sa pièce reprise, et elle a été reprise par des interprètes glorieux. Madame Segond Weber a, je ne sais plus combien de temps après sa mort, mais pas si longtemps, je dirais peut-être une vingtaine d'années, obtenu que La Révolte soit inscrite au répertoire de la Comédie Française et l'a jouée. Antoine, le célèbre Antoine, le fondateur du Théâtre Libre, a monté la pièce à 2 reprises avec Firmin Gémier dans le rôle de Félix, l'homme. Donc, je ne fais pas une véritable découverte. Nous ne faisons pas une véritable découverte en montant La Révolte. Reste que la pièce conserve, je crois, aujourd'hui, son pouvoir de provocation et que Villiers, amer, déçu, outré de ce qu'avait été la réception du public et surtout de la presse, a écrit une préface dont je dédie la lecture d'ailleurs à Jonathan Duverger aujourd'hui. Qu'il me soit permis d'abdiquer pour un instant le diadème de modestie qu'on aime avoir au front du sage, je tiens à faire preuve ici, au mépris des devoirs de l'hypocrisie la plus vulgaire, d'un orgueil presque égal aux vanités chétives de ceux-là même qui me le reprocheront. S'occuper du présent est chose assez originale chez les poètes pour que l'on m'absolve si j'y condescends une fois. La postérité, d'ailleurs, fut toujours un peu commère, et les commentateurs futurs ne me sauront pas mauvais gré de leur avoir épargné des recherches sur les quelques noms, alors fort probablement tombés en oubli, de ceux dont l'ire sentencieuse a cru devoir me couvrir de dédain vers l'an de grâce 1870. Sans doute, il est fastidieux de ne pouvoir se distraire un peu aux dépens des gens sans les couvrir d'un certain lustre. Mais il est des jeux de princes moins innocents. On me passera donc celui-ci. Voici les 3 scènes si simples qui ont un instant mis quelque peu en émoi la critique de France et dont l'exécution au théâtre du Vaudeville a dû être arbitrairement interdite à la 5e soirée comme blessante pour la dignité et la moralité du public de la Bourse et des boulevards. J'eusse préféré le silence à tous ces volumineux articles qui ont jeté sur cette œuvre un semblant de célébrité. Merci toutefois, et du cœur de mon cœur, comme dit Hamlet, à ces maîtres de la pensée, de l'art et du style qui l'ont si magnifiquement acclamé, expliqué et défendu. À Richard Wagner, à Théodore de Banville, à Théophile Gautier, à Franz Liszt, à Lecomte de Lisle, à Alexandre Dumas-fils, sans la violente intervention duquel ce drame n'aurait même pas vu la lumière. Je coupe de des pages magnifiques et vengeresses pour terminer sur les 3-4 lignes qui forment la conclusion de cette préface. Oui, la foule, juge tardif, mais seul juge, car on ne doit écrire que pour le monde entier, s'apercevra brusquement du but que poursuivent les 2 ou 3 incapables qui la bafouent, la méprisent et la rompent. Ils nous disent, sûr de l'avoir suffisamment hébété. Le public ne vous comprendra pas. Et ils se frottent les mains. Mais, réveillés de leur soi-disant jugement, la foule haussera bientôt ses vastes épaules. Et il leur deviendra plus difficile, alors, de paralyser matériellement toute tentative généreuse et haute de ceux-là qui, de tout temps, furent les créateurs de l'art et non ses valets. Ainsi, justice sera faite, et nous avons le temps d'attendre. D'ailleurs, que nous importe même la justice. Celui qui, en naissant, ne porte pas dans sa poitrine sa propre gloire, ne connaîtra jamais la signification réelle de ce mot.
C'est la voix d'Edita Gruberova qu'on écoute dans ce lied de Schubert, Le Pâtre sur le rocher. Ce lied qu'on entend à la fin de La Révolte, donc la pièce de Villiers de l'Île d'Adam, qu'on peut voir en ce moment au Théâtre de l'Athénée. Jean-Marie Villégier, cette pièce qui résonne, surtout peut-être aux oreilles d'une femme d'aujourd'hui, comme particulièrement cruelle, puisque c'est un huis clos, qui déploie toute la médiocrité d'un couple bourgeois, la férocité de l'argent qui domine tout, l'infantilisation et l'humiliation de la femme. Ce couple, enfin mari et femme, liés davantage par les chiffres en hausse des livres de compte sur lesquels ils se penchent jour et nuit, plus que par l'amour, jusqu'à cette nuit où la femme, après avoir rangé soigneusement le porte-plume, les registres, décide de tout plaquer, maison, mari, enfant. Mais c'est une révolte rentrée.
C'est une révolte qu'elle a dû rentrer pendant 4 ans et demi, les 4 ans et demi de vie conjugale qu'elle vient de vivre, afin d'assurer son indépendance et de ne rien devoir à personne. Elle s'est mouillée, je dirais, dans ses affaires financières qui la dégoûtent, afin de tripler la fortune de son mari, dit-elle, et c'est vrai, avant de le quitter, à titre, j'allais dire, d'indemnité de départ, mais une indemnité de départ qui va à l'employeur et non pas à l'employé, et afin aussi d'avoir un petit pécule qui lui permettra, comme elle dit, de respirer l'air libre, jusqu'à la mort. On imagine, elle laisse entrevoir que peut-être elle a acheté une cabane quelque part, dans un pays lointain, en Islande, en Sicile ou en Norvège, peu importe, dit-elle. Mais elle ne dira pas où elle va. Ce qui rend la pièce très cruelle, comme est toujours l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam, c'est vraiment l'épithète qui lui convient le mieux. C'est que ce départ, cette fuite, cette prise de liberté est avortée. Et que, pour terminer la pièce, après qu'on ait entendu cette musique qu'on vient d'entendre et qui laisse entrevoir l'envol vers la liberté, la vie pleine et entière et l'imaginaire enfin satisfait, elle revient. Il était trop tard. Je n'ai plus d'âme, dit-elle. Elle n'est plus, elle s'est trop mouillée, je dirais, dans les affaires. Elle a trop attendu pour réaliser son désir. Et donc, elle se range. Je crois que la pièce, aujourd'hui, nous touche beaucoup, à la fois, comme vous le disiez, parce que il évoque un rapport homme-femme où la femme est infantilisée. Il évoque un conflit absolu et irrémédiable entre le réel et l'imaginaire, mais aussi parce qu'il évoque un monde sans alternative. Un monde où la... J'emprunterai la formule à qui vous savez, où l'horreur économique est en marche et où rien ne peut la contenir, si ce n'est des velléités d'opposition, mais qui n'arrivent pas à s'offrir comme un véritable chemin de remplacement.
Et parmi les phrases terribles prononcées par Félix, qui porte bien son nom, le mari de cette pièce, il y a ce propos « Rêver, je me demande bien ce que ça peut vouloir dire ».
Absolument, oui. Et elle dit ensuite ce que ça peut vouloir dire. Et ce que ça peut vouloir dire chez elle, très étonnant, ça veut dire « oublier l'horreur de ces temps maudits ». Ces temps maudits, dit-elle, où je suis forcé de vivre. Voilà, alors c'est donc le spectacle que Jonathan Duverger et moi avons mis ensemble en scène. Mais je devrais dire quand même beaucoup plus Jonathan que moi. Et puisque j'ai évoqué tant de rencontres au cours de cette émission, je voudrais dire que la rencontre de loin la plus importante pour moi de ces dernières années, c'est celle de Jonathan, qui a d'abord été mon assistant il y a de ça 15 ans, et qui m'a révélé au fil des années un vrai talent de metteur en scène. Je ne dirais pas qu'il est mon élève ou mon disciple ou mon ça fait belle lurette qui n'est plus mon assistant. J'irais plutôt qu'il est mon fils, en ce sens que un élève, ça suit les traces d'un maître. Un fils, ça apprend et ça s'oppose. Et ça, je veux dire, ça s'oppose pas méchamment, bien sûr, mais ça trouve sa propre voie. Et je pense que le spectacle que vous avez vu hier soir le démontre amplement. Il a été, dirais-je, au cours des répétitions de ce spectacle, dans un état que j'ai connu un certain nombre de fois, en particulier au moment d'Atis, que j'appellerais l'état de grâce. État de grâce du metteur en scène. C'est rare, la rencontre d'une œuvre et de quelqu'un.
En tout cas, la révolte est bien la preuve qu'une mise en scène à deux têtes peut produire des très belles choses. Merci beaucoup Jean-Marie Villégier, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous Francesca Isidori.
C'était Affinité Lective, une émission de Francesca Isidori, à la technique Marie-Dominique Bougot, réalisation Brigitte Aléo. Merci à tous.
Cette émission a été diffusée le 26 janvier 2006 sur France Culture.